à la fin du mois dernier, avait lieu le visionnement des lauréats des films publicitaires de Cannes, organisé par le BEC. On en jase avec Charles Fortier, un des panélistes de l'événement. Celui-ci a cru remarquer une tendance à la récupération marketing en matière de publicité sociétale. Bon podcast.
Comment ça s'est passé, votre panel? Comment ça fonctionnait?
C'était très simple. En fait, on visionnait le film craft puis le film avec tous les spectateurs.
Ouais.
Ensuite de ça, il y avait une discussion d'environ 30 minutes là, avec les trois gars. C'est-à-dire que Jean-François l'animait, il y avait Sylvain et Alexis qui étaient avec moi pour commenter en fait ce qu'on venait de voir, échanger deux, trois idées, donner nos impressions, puis donner notre feedback général là, sur ce qu'on venait de voir.
Toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu avais à dire, qu'est-ce que tu as partagé, puis qu'est-ce que tu as retenu de tes collègues?
Ce qui était le plus intéressant pour moi, c'est d'avoir leur insight, parce que moi, évidemment, je suis directeur artistique, puis je travaille beaucoup sur les marques de façon générale, moins en publicité très précisément.
Ouais.
Donc, avoir leurs insights, pour moi aussi, c'était super intéressant. Ce que je retiens, en fait, c'est qu'il y a une portion qui est de type politique, de type représentation, que j'étais pas au fait de ça. Là. Donc, c'est certaines publicités, des fois, où je questionnais la présence dans les prix, en fait. Au final, ben, il y a peut-être un côté, ça prend plus de pubs qui viennent de telle région ou dans tel pays, ça pogne beaucoup. Donc, les gens, les juges de Cannes peuvent récompenser ça parce qu'ils savent que c'est target sur ce marché-là. Évidemment, moi, je regardais les pubs avec un œil de gars qui connaît le marché nord-américain plutôt.
Mm-hmm.
Donc, eux, il y avait un feedback qui était vraiment intéressant aussi. Mais sinon, si je parle de la soirée en général, là, ce que je retiens des prix, c'est qu'il y a une tendance assez forte, je dirais, vers la publicité sociétale. Depuis 2016, on dirait là, depuis l'élection de Trump, on dirait que chaque marque essaie de plus en plus politiser, puis essaie de plus en plus prendre position ou de se mettre derrière un mouvement. Parfois,
mm-hmm.
c'est plus heureux que d'autres fois. Puis il y avait des espèces de mécanismes là, qui étaient très, très évidents, qui revenaient dans plusieurs cas. Des fois où c'est moins heureux, c'est évidemment quand c'est moins incarné, quand c'est moins aligné avec les valeurs de la marque.
Ouais.
Par exemple, je pense à Minto, qui était un centre d'achat et qui avait un film sur une histoire d'une transgenre, en fait. Mais qui profitait un peu de son histoire, puis d'un point de vue extérieur, quand tu sais que c'est un centre d'achat, tu peux facilement avoir le sentiment que ça vient parasiter une histoire humaine pour vendre le centre d'achat en question.
Ah ouais.
Donc, tu sais, il y a toujours un malaise quand on profite d'une histoire comme ça, puis on sent qu'il y a une espèce de décalage avec la marque. Parce que, évidemment, je ne vais pas rechercher davantage sur la marque, là, peut-être que c'est vraiment aligné avec leur valeur, mais il y a quelque chose qui rappelle un peu là, ce que Pepsi avait fait avec Kendall Jenner, qui avait été un flop complet l'année dernière, c'est-à-dire de profiter du mouvement Black Lives Matter avec une Kendall Jenner qui manifeste devant les policiers.
Mm-hmm.
Mais évidemment, il y a un décalage qui est trop fort, puis il y a une narrative en fait en laquelle on croit pas du tout. Ça fait en sorte que je pense qu'il y a un sentiment plus de frustration par rapport à la publicité que d'empathie par rapport au message.
Mais y avait-tu d'autres choses dans cette pub-là qui faisaient en sorte qu'elle se méritait, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a gagné, là, mais...
Le truc, c'est qu'elle était dans le film, si je ne me trompe pas, et non dans Film Craft, parce que, évidemment, dans Film Craft, c'est plus les artisans qu'on,
ouais, ouais.
qu'on va aller récompenser, donc
ouais.
si c'est la musique, si c'est le montage, si c'est, si c'est visuellement, en fait, la direction artistique, celle-là était vraiment dans le film, donc c'est plus la publicité en soi qui était récompensée. Mais c'était une belle histoire, tu sais, c'était bien monté, évidemment, puis au final, c'était très beau comme moment. Puis justement, ce qui est intéressant de voir pendant la soirée, c'est que les gens ont vraiment réagi pendant ce moment-là. Les gens ont même applaudi à la fin de la publicité. Les gens savaient évidemment pas que c'était puisque la pub vient d'ailleurs, les gens savaient pas que c'était une publicité qui parlait d'un centre d'achat. Mais pour le message en soi, les gens ont applaudi.
Ils ont essayé d'acquérir du brand love sur un sujet qui est plus ou moins
exactement.
Pertinent.
On sent un petit peu que ça peut quasiment avoir l'air d'un parasite au final. C'est versus, par exemple, ce que Nike a fait avec Kaepernick, ce que Dove fait depuis plusieurs années par rapport à l'acceptation de soi puis pour que les femmes puissent s'aimer puis prendre confiance. Il y a comme quelque chose qui travaille sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va vraiment backer nos assister avec des actions réelles. Est-ce que Minto le fait? Peut-être. Mais d'un point de vue extérieur, ça avait l'air d'être un autre Pepsi avec Kendall Jenner. C'est surtout ça, en fait.
D'autres spots qui t'ont marqué de façon positive ou négative?
Positive, absolument. En fait, il y avait vraiment beaucoup de bonnes publicités. Il y en a une en particulier. Bien, évidemment, moi, étant directeur artistique, je ne peux pas faire autrement que tomber en amour avec la publicité du HomePod de Apple.
Ouais.
C'est une publicité que j'ai écoutée plusieurs fois pour le plaisir. J'ai écouté le making of plusieurs fois parce que j'étais complètement fasciné par comment il avait réussi à faire cette publicité-là. C'est un réalisateur que je trouve très, très intéressant aussi. C'est lui qui avait réalisé la publicité de Kenzo. Il y avait une jeune danseuse qui se sortait d'une espèce de soirée guindée, qui se mettait à danser dans un grand hall.
Oui, oui, je m'en souviens de ça.
Spike Jonze, c'est son nom. C'est une belle image aussi, là, d'arriver chez soi puis que le HomePod transforme complètement la maison puis rendre le chez soi vraiment coloré, vivant, puis tout, avec l'intégration de certains gestures des objets d'Apple, c'est super bien fait, c'est vraiment mené de main de maître. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est un de mes coups de cœur. Sinon, il y avait une publicité qui était dans Filmcraft que j'aurais mis personnellement dans le film, c'est la publicité avec John Malkovich, Teasing Malkovich, ou Teasing John Malkovich. C'était pour un match, en fait, c'était CBS, je crois, qui commandait la publicité pour faire la promotion d'un match important dans la NFL.
Oui.
Puis, c'était, en fait, John Malkovich questionnait dans la publicité le script de la publicité. Donc, il y avait un petit côté mise en abîme là, dans la chose. Ouais, puis, ouais. Il y avait un côté très... très auto-dérisoire, qui est super payant à mon sens, qui va pas s'en rappeler, je pense, la publicité qui a gagné le Grand Prix cette année, le Procter & Gamble avec Destina de Tide Ad. Je trouve que ça ressemble à ça un peu comme procédé, parce qu'on va vraiment rire un peu des mécanismes de la publicité, puis du fait que la publicité est parfois très très grosse, puis qu'on y va vraiment avec beaucoup trop d'intensité, puis que c'est pas particulièrement... pas tout le temps approprié d'avoir un ton aussi intense, mais on le fait quand même parce que ça donne des frissons aux gens, ça fait vendre des billets de spectacle, des billets de pour un match, si on veut.
Ouais.
Mais donc, dans cette prémisse-là, c'était super intéressant d'avoir deux trames narratives aussi. Il y avait John Malkovich qui était drôle dans un premier temps parce qu'il c'est comme il se choquait un peu par rapport à ce script-là. Mais il y avait aussi la trame narrative où il se met à dire que ça devrait être cette publicité-là. Puis on jonglait avec les deux pendant un coup. Il y avait des touches d'humour encore, mais il y avait encore de l'intensité. Puis là, c'est comme avec l'orchestre en arrière qui était au début dérisoire, mais là, finalement, on embarquait. C'est ça qui était un peu un coup de génie, à mon sens, parce que au début, on rit du fait qu'il y a un orchestre, mais au final, on profite quand même du fait qu'il y a un orchestre parce que l'intensité est vraiment là. Puis on finit par mettre des matchs de football, puis ça marche absolument bien. Puis en plus de ça, la DOP, la direction de la photo était super belle, puis c'était super bien joué.
Ah non, c'était un méchant trip de writers.
Hein. Ah ouais, non, complètement. J'en aurais pu plus, là. Vraiment plus, on dirait.
C'est rare qu'on dise ça de la pub. Hein.
Ben pour nous, c'est un petit peu moins rare, mais c'est rare que les gens en battent autant. C'est justement dans la salle aussi, là, je pense, que ça réagissait à cette publicité-là plus qu'à d'autres.
Ouais. Réussir à faire réagir des publicitaires, c'est toujours quelque chose d'étonnant.
Oui, c'est ça, on est un public plus difficile.
Ben oui.
Souvent, j'ai l'impression. Là.
D'autres coups de cœur que tu as eus?
Il y avait Stop the Hour.
Ouais.
C'était vraiment, ça rentrait dedans complètement. C'était
ouais,
très difficile à regarder.
Ouais, ouais.
Mais c'était une campagne qui était, je pense, très bien ficelée. Puis c'était une des fois où le call to action est vraiment fort et vraiment ingénieux. C'est-à-dire que la narrative, c'est qu'il y a des images de gens qui souffrent le martyr, si je peux me permettre.
Oh ouais.
Puis comme à la façon YouTube où on dit qu'on peut passer l'annonce après 15 secondes ou juste ignorer l'annonce, il y avait un call to action dans les vidéo players qui indiquait Stop the Horror.
Ouais.
En cliquant sur Stop the Horror, on était dirigé vers une page qui expliquait qu'on pouvait mettre notre nom puis rentrer nos informations pour signer la pétition pour que l'aide médicale à mourir soit permise. Sinon, il y en a certaines aussi dans le volet plus dramatique. Là, il y avait quelque chose de super, super intense. Les dessins d'enfants, les vrais dessins d'enfants, en fait, sur les créations. C'était, ça peut pas être plus simple que ça comme publicité. Là. C'est-à-dire que les dessins prenaient vie devant nous, puis il y avait tout le temps le reveal du membre d'un homme qui avait agressé les enfants au final, puis avec une espèce de finale de s'ils s'en rappellent sur dessin, on va s'en rappeler toute leur vie ou quelque chose du genre. Puis, ça faisait mal là, regarder. Là. Tout le monde avait une espèce de coup de poing dans le ventre complet, là, je pense. Là. Sinon, autre chose comme ça, il y en avait des très drôles, là, comme je me rappelle une publicité pour un office de tourisme qui était en fait plein d'images, des vraies images encore une fois, puis les classiques que les touristes font avec une chanson hyper entraînante.
Ouais, ouais.
Et c'est juste la juxtaposition de plusieurs images, une à la suite de l'autre. Dans la forme, je trouvais que c'était assez inventif. Puis finalement, juste une dernière qui est encore une fois du côté plus dramatique, là, c'était celui du père avec son enfant qui chauffait de façon, conduisait de façon très très rapide pour amener son enfant à l'hôpital, puis qu'une fois arrivé à l'hôpital, ben l'hôpital avait été détruit. Puis en disant que s'il n'y avait pas de service de santé, il n'y avait pas d'espoir. Je trouvais que c'était très efficace parce qu'au final, on vivait exactement l'espoir du père. Parce qu'on espérait évidemment qu'il se rende dans un hôpital, qu'il réussisse à faire soigner sa petite fille. Donc, l'espoir était réellement vécu, je pense, par tous les spectateurs.
Mm-hmm.
Donc, le tagline, encore une fois, la chute était super bien écrite. Puis ça fonctionnait très, 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 très bien, je pense.
Comparé à la pub qu'on voit à la télé, ici au Québec, tu donnerais quel score la pub au Québec? Toutes catégories confondues versus ce que tu as vu là, qui est la crème de la crème en principe. Là.
Mm-hmm. Ben, c'est ça qui est drôle, parce que je pense que je représente bien ma génération. Je consomme pas tant que ça de publicité au final, parce que j'écoute jamais la télévision.
Ben non, c'est ça.
Fait que c'est sûr que j'en vois plus tant que ça, les publicités. Mm-hmm. Mettons, tout ce qui passe entre... dans un 3 minutes, à tout le monde en parle. J'ai pas de moins en moins. Ce qui sera à moi, c'est vraiment plus ce genre de catégorie-là. C'est la campagne du lait avec les vaches qui parlent. Ou c'est le dernier film que justement Alexis a sorti avec IGA, hyper attendrissant d'un enfant qui fait la cuisine. C'est justement plus les films qui vont ressortir. Je pense que c'est pour ça, entre autres, que c'est important parce que ce qui va ressortir sur Facebook, ce qui va se faire partager sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est engageant, c'est ce que les gens aiment.
Ben oui.
Je pense que pour être engageant puis pour susciter l'intérêt des gens, ben faut plus qu'un 30 secondes avec un punchline puis une trame narrative hyper contenue. Quand c'est particulièrement drôle ou particulièrement touchant, que ça va vraiment se rendre à une histoire qui a complètement été déconnectée de la télévision depuis longtemps, en fait.
Fait que quelque part, une pub, son succès aujourd'hui, en principe, une pub devrait toujours se démarquer, mais étant donné qu'on ne va plus regarder la pub où elle est, mais c'est elle qui vient à nous parce qu'elle amène quelque chose qui vaut assez la peine pour qu'un ami le partage ou que quelqu'un le commente, c'est comme si c'est même plus une question de médias, c'est une question de la créativité des spots devient comme un critère sine qua non de sa visibilité, particulièrement auprès d'une clientèle plus jeune.
Non, complètement, puis... Le truc, c'est que c'est jamais... Il n'y a pas de recette pour ça, là, pour susciter de l'engagement. Puis, tu sais, nous, ici à RAD, on fait des produits d'information, donc c'est évidemment pas de la publicité. Mais c'est difficile de juger de qu'est-ce qui va susciter vraiment de l'engagement. Parce qu'après, il peut y avoir des vues, mais pour que quelqu'un décide de partager quelque chose, c'est vraiment une gymnastique qui est difficile à atteindre là, parfois. Là. Fait que, si ça touche vraiment les gens, si ça va chercher un sujet qui a de l'intérêt particulièrement chez le 18-34, par exemple, il faut qu'il y ait des ingrédients qui soient assez forts pour attirer l'attention, pour que ça se démarque. C'est plus important que jamais, justement, là, la créativité. C'est plus important que jamais de réussir à faire des espèces d'électrons libres là, qui vont vraiment aller marquer l'imaginaire du public, je pense.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!